Hello, this is a show from Radio. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners.
Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond. Are you up for it?
Mon début, c'est début 1870. Début 1870, le recteur de l'Université McGill est un homme nommé William Dawson. Début 1870, l'homme se lève. Il s'avance. Il dit qu'il regrette que les femmes ne puissent pas fréquenté son université. Il regrette. Il regrette. Il regrette. Et les années passent. Puis une décennie. Et toujours pas de femme à l'université McGill. Jusqu'à ce qu'un homme, un autre homme, se lève et avance un don généreux à l'université McGill, à la condition généreuse que les femmes puissent y étudier sous des normes identiques, des conditions identiques que les hommes. Et c'est ainsi qu'est arrivée Tamara Filiavitch en 2006 à l'Université McGill. Mais ça, passons, car je ne peux parler que de moi, que pour moi. Et c'est ainsi donc que me voilà, Marie-Lou Craft, en 2019, à parcourir l'Université McGill, à parcourir les couloirs, les salles de classe. Sur les murs de ma faculté, il y a des portraits. Des portraits et des portraits d'hommes et d'autres hommes. Des portraits d'hommes et des portraits d'hommes et des portraits d'hommes et des portraits d'hommes. Et parfois des portraits de femmes, dont Annie MacDonald Langstaff, la première femme diplômée de la faculté de droit de l'université en 1914. Annie MacDonald Langstaff était diplômée de l'Université McGill sous des normes identiques, des conditions identiques que les hommes. Annie MacDonald Langstaff, diplômée de la faculté de droit de l'Université McGill avec mention à part ce First Class Honors. Elle prend son diplôme. Elle va au barreau du Québec. Elle s'inscrit au barreau du Québec. Elle se fait refuser l'admission au barreau du Québec. Annie MacDonald Langstaff, malgré son diplôme identique à celui des hommes, n'avait pas eu la permission du sien pour l'obtenir, son diplôme. C'est vrai, Annie MacDonald était mariée à un Langstaff dont elle a gardé le nom mais perdu le mari qui l'avait abandonné bien avant elle et leur enfant qu'elle a élevé sans lui bien avant qu'elle étudie le droit sans lui bien avant qu'elle reçoive son diplôme First Class Honors sans lui bien avant qu'elle se batte sans lui pour faire reconnaître en cours devant des hommes qui la déboutent encore et encore, bien avant qu'elle se batte sans eux pour se faire reconnaître à l'Assemblée nationale devant des hommes qui lui ont fermé les yeux encore et encore. Annie MacDonald Langstaff s'est battue, mais jamais seule. Il y avait toutes ses semblables, les yeux grands ouverts, dont les luttes l'avaient guidée, celle derrière, celle à ses côtés, celle à venir, ces femmes et leurs luttes qui ont guidé la sienne, si on peut la nommer ainsi, en 1941. Les femmes étaient finalement admissibles au barreau du Québec. En 1941, les femmes pouvaient pratiquer le droit. Presque 30 ans après qu'une première femme ait obtenu son diplôme en droit à l'Université McGill, First Class Honors, Annie MacDonald Langstaff, qui ne remplissait toujours pas les critères d'admission au barreau du Québec. Presque 30 ans plus tard, il aurait fallu recevoir l'éducation classique qu'elle n'avait pas reçue avant son diplôme en droit de l'Université McGill, car l'éducation classique était réservée aux hommes dans ce temps-là, dans son temps, à elle qui n'était pas vraiment à elle. C'est correct. Elle a été admise finalement au barreau du Québec en 2006. Avocate, enfin, avec médaille d'honneur. Juste 31 ans, trop tard pour pouvoir la porter de son vivant. C'est la faculté de droit de l'Université McGill qui la porte pour elle. Sur les mêmes murs qui m'entourent à mon tour en 2019, à 31 ans, pas encore trop tard pour être là, pour pouvoir presque y toucher à mon tour. Presque. Peut-être. C'est peut-être encore trop loin pour une femme comme moi. Je n'ai pas commencé par le début. Je n'ai pas commencé par le mien. Peut-être parce que c'est toujours déjà commencé, toujours à recommencer les deux en même temps. Pour moi, ça commence avec un mal de ventre, parmi d'autres maux de ventre, déjà commencés parce que jamais fini. Un mal de ventre tellement commencé, mais pas fini, que je m'en étais pas rendu compte. Ou alors oui, je le sentais bien me tirailler, me tenailler, mettant que je pouvais l'ignorer dans les couloirs de la faculté de droit de l'Université McGill, ça ne pouvait pas être commencé. Ça pouvait ne pas être commencé. C'est mes semblables, finalement, qui me l'ont dit. Mon mal de ventre. Que j'arpentais les couloirs en me tenant le ventre, que je m'assoyais en salle de classe en me tenant le ventre, comme pour m'empêcher de fuir ou de me répandre. Moi qui pensais que ça s'ignorait. Ah! Mes semblables se sont cotisés pour m'aider à mieux en prendre soin de ce ventre qui se tend. Mes semblables se sont cotisés pour m'offrir un certificat cadeau de spa. C'était signé solidairement. Solidairement, avec un PS. Nous préférons rester anonymes pour ce petit geste à ton égard. C'est comme ça qu'on s'aide entre nous. Il y a des réseaux de regards pour percer les ventres, des mains tendues par en dessous pour détendre les nœuds. Solidairement, anonymement. J'ai pris le bus pour aller au spa. J'ai fermé les yeux pour mieux m'y voir. L'homme assis devant moi dans le bus parlait au téléphone très doucement, très calmement. Il disait très doucement, très calmement, ils vont tous nous tuer massivement. Il disait ces gens-là. Il disait, j'en suis persuadé. Il disait, c'est ma conviction profonde. Il disait, je suis convaincu de la supériorité de ma race. J'ai ouvert les yeux pour le voir. Il ne parlait pas au téléphone. Il disait ça comme ça. J'ai croisé des regards, ceux de mes semblables. Dans ces temps-là, on sait pas qui on est, mais on comprend ce qu'on est. Ces gens-là, c'est par là que ça passe, les réseaux de regards, les réseaux de mains tendues pour passer au travers, les regards solidaires, anonymes. L'homme s'est levé. L'homme s'est avancé. L'homme a dit au chauffeur. L'homme a dit, on est chanceux. Il annonçait des orages. L'homme est descendu de l'autobus. J'ai regardé par la fenêtre. On était au palais de justice. Il n'y avait pas d'orage. Et aucun spa ne pourrait dissoudre ce nœud au ventre. Pour rentrer, j'ai pris un autre chemin. J'ai évité le bus. J'ai pensé à la justice, en sachant bien que les hommes se lèvent et s'avancent n'importe où. C'est assez pour me tirailler, c'est assez pour me traîner jusqu'ici, entre les murs d'une université que je peux fréquenter grâce à la mixité, grâce aux efforts de mixité, grâce aux efforts de diversité, grâce aux efforts d'équité, grâce aux efforts d'offrir un milieu inclusif à tous nos étudiants, surtout ceux provenant de groupes qui ont fait ou qui continuent de faire face à des obstacles systémiques. Il y a des accommodements possibles entre ces murs. Il y a des accommodements pour faire place aux maux de ventre qui tenaient trop pour pouvoir suivre. Il faut seulement être prête à fournir de la documentation comme un billet médical. C'est facile, ça s'applique pareil. Pour tout le monde, ça fait simple pour l'administration. C'est technique, mais pour savoir en quoi la technique peut être un obstacle systémique, il faudrait faire compliqué. Il faudrait parler. Il faudrait parler de dictature et d'exil, d'immigration et d'exclusion, d'équivalence, de surqualification, d'inégalité salariale, de choc post-traumatique, de pauvreté, de sexisme, de racisme, de résilience, d'entêtement, d'acharnement, de lutte, de lutte, de lutte, de tout ce qui peut mener mes semblables sur les bancs d'école à défaillir, tout ce qui peut renvoyer mes semblables des salles d'urgence, des cabinets de médecins avec une prescription de Tylenol, avec une prescription d'Advil, avec une prescription de Motrin, avec une prescription d'alternance entre Tylenol, Advil et Motrin et yoga et spa, avec une prescription de rien, avec tout ce qui peut les faire disparaître, mes semblables des couloirs, de tout ce qui peut les faire disparaître sans bruit. Il y a des accommodements qui sont possibles aux personnes qui n'en ont pas besoin. Il y a des accommodements qui ne sont accessibles qu'aux personnes qui n'en ont pas besoin. Qui n'en ont pas besoin. Il y a des accommodements qui ne sont accessibles qu'aux personnes qui n'en ont pas besoin, mais qui sont convaincues avec une conviction profonde qu'on en abuserait si on le pouvait. Deviennent mononucléose, pas accommodée. Je pense à mes semblables qui refusent de disparaître, qui luttent entre les murs pour pouvoir en sortir first class honors. Et peut-être arriver dans un monde qui ne les accommoderait pas seulement trop tard. En 1870, le recteur de l'Université McGill disait que le monde était à l'aube d'une ère nouvelle en matière d'éducation. Une ère nouvelle qui serait le théâtre de progrès aussi spectaculaire que ceux inaugurés par le renouveau de l'enseignement et l'ouverture d'universités pour les hommes. En 1975, Annie MacDonald Langstaff mourait sans jamais avoir pu être avocate. En 1989, 14 femmes mouraient sans jamais avoir pu être ingénieure, sans jamais avoir pu être femme, sans jamais avoir pu être. En 1989, j'étais si jeune et Tamara si loin, mais on n'est jamais assez jeune, jamais assez loin pour éviter la terreur, celle qui tenaille le ventre, celle qu'on hérite de celles qui l'ont vue, de celles qui l'ont vécu, de celles qui n'y ont pas survécu, de celles qui ont vécu quand même, malgré ceux qui se lèvent, malgré ceux qui s'avancent pour nous retenir. Je pense à mes semblables, celles qui ont besoin d'accommodements qui n'existent pas pour elles, celles qui luttent pour les créer, celles qui luttent pour en éliminer le besoin, celles qui prennent la douleur par le ventre, celles qui prennent la terreur par le ventre pour empêcher qu'elle en empêche d'autres de devenir ce qu'elles veulent, de devenir qui elles veulent, d'être qui elles veulent.